Déjà, l'Odyssée est un énorme succès. Peu importe ce que je vais dire dans la prochaine vidéo, ça ne l'empêchera pas d'atteindre le milliard de revenus. Ça, en 2026, c'est pas rien. Mais le cas de l'Odyssée me fait particulièrement rire. Surtout la promo qu'il y a eu autour. Et je vais vous parler du film, mais je vais vous parler un peu de ça aussi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a du monde qui ont compris le concept d'économie de l'attention. Donc aujourd'hui, à revue, l'Odyssée, une tempête dans un verre d'eau. Et ça commence maintenant. Avez-vous déjà eu le sentiment que tout était prévu d'avance quand un film sortait? Oui. T'as le sentiment que tout se passe comme c'était prévu. Parce que revenons en arrière, OK? Revenons au moment où la bande-annonce de l'Odyssée est sortie. Elliot Page en soldat grec, Hélène de Troie noire. T'as pas vraiment besoin de plus que ça pour mettre le feu aux réseaux sociaux, quoi. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et avant même que le film soit sorti, eh bien, tout le monde en parlait déjà. Ouais. Il y avait une chier de vidéos de réaction sur la bande-annonce sur YouTube. Tout le monde en parlait sur X, sûrement sur Facebook aussi, sur Instagram. Tout le monde en parlait, là. Sauf que, ben, le film a fini par sortir. Et là, c'est l'autre côté du spectrum qui s'est allumé. Ben oui, parce que l'homme trans et la femme noire n'ont qu'à peu près 5 minutes de temps d'écran dans ce film-là. Leur rôle a une certaine importance dans l'histoire, OK? Mais font pas le film, là. Elliot Page n'est pas Achille. Et Nupita Nguyo, eh bien, elle a 3, 4 scènes de 30 secondes dans le film. Elliot Page a peut-être 3 minutes totales de temps d'écran et je suis généreux. Et pour ceux que ça inquiète, Zendaya en Athéna a peut-être 4 scènes, 5 scènes, 4 lignes de dialogue, peut-être maximum. Je ne sais même pas si on la voit 2 minutes bout par bout collé sur un film de plus de 2h30. Travis Scott, le rappeur, on le voit 1 minute au début, 30 secondes un peu plus tard dans le film, encore une fois. Ça change pas grand-chose.
Ne crois pas ça.
Tom Holland, John Bertal, Charlize Theron, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Matt Damon, c'est eux qui font le film. Et eux, ils sont pas juste blancs, là. Ils sont blancs pâles. C'est aussi Spider-Man, Batman, Catwoman, Jason Bourne, Punisher, Atomic Blonde, hein, en passant. Donc, la prémisse de diversité que la bande-annonce a mis devant tout le monde, OK? Ben, c'est pas vrai. C'était probablement fabriqué par les studios, ça. Parce que la question à se poser quand la bande-annonce est sortie, c'est qu'est-ce qu'il y avait de la valeur pour eux? Comment ils allaient faire pour obtenir l'attention de tout le monde? Eh ben, tu mets un homme trans, Hélène de Troie noire, tu mets Zendaya, Travis Scott dans une bande-annonce. Ben là, t'as l'attention de monde qui vont plus vraiment au cinéma maintenant. Est-ce que c'est important de souligner lors de la bande-annonce que tous ces personnages-là avaient des rôles très secondaires? D'après vous, hein? Pourquoi ne pas laisser le doute planer? Parce que si le monde se gueule dessus sur les réseaux sociaux, là, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Tant et aussi longtemps qu'ils parlent de ton film.
Pour accomplir sa vengeance.
Et quand la promo officielle du film a commencé, là, quand on a commencé à voir les acteurs du film partout, tout le temps, en train de vendre l'Odyssée, de quoi est-ce qu'ils parlaient en premier? Je vous donne un indice, c'était pas la diversité. Ils parlaient du fait que c'était filmé en 70 mm IMAX. Un accomplissement technique incroyable. On entendait les acteurs parler des caméras IMAX comme si c'est eux autres qui les avaient inventées. On entendait les acteurs nous expliquer à quel point c'est compliqué de tourner un film en IMAX. Non, mais faut changer la bobine toutes les 3 minutes. Imaginez le pauvre acteur qui est obligé d'attendre pour finir une scène. Non, mais travailler sur des toits au mois de juillet ou remplir des tableaux Excel 40 heures par semaine à côté de ça... C'est des vacances. Et le plus drôle avec cette prémisse-là de IMAX 70 mm, est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que moi, je le sais. c'est qu'il existe uniquement 41 salles dans le monde pour voir le film tel que le réalisateur l'a tourné. Pas 41 salles en Suisse, pas 41 salles en France, pas 41 salles au Québec, puis pas 41 salles en Belgique. Là. Non, non. 41 salles dans le monde. Et ce que je vais vous dire, là, c'est super important, OK? 99% des gens qui ont vu le film ne l'ont pas vu dans le format souhaité par le réalisateur parce que 99% des gens qui ont vu le film n'ont pas accès au format. Non, mais t'imagines, deux secondes, 70 mm, écran IMAX, fantastique. Sauf que moi, j'habite en Suisse. Il n'y a pas de salle 70 mm en Suisse. La plus près de chez moi, elle est à Montpellier. Montpellier, c'est 6 heures de voiture. J'imagine que je pourrais faire un effort, hein? En faire un week-end peut-être, hein? Aller le voir deux fois. Parce que si je fais 6 heures de bagnole pour y aller, 6 heures pour revenir, ça fait 12 heures de bagnole, aussi bien en passer 5 assis sur mon cul devant un film. Et vous avez remarqué une chose? Pendant qu'on parle de diversité, pendant qu'on parle de IMAX, ben on parle toujours pas du film, là. C'est juste moi qui remarque ou...
Son destin.
Et c'était pas fini parce que Christopher Nolan est allé en Chine, il a donné une entrevue sur laquelle il chie sur les critiques amateurs. C'est un défaut fondamental de la critique de cinéma ou de la critique du récit en général, être capable d'identifier les mécanismes n'invalide pas le mécanisme. Les gens ont cette idée que parce qu'ils comprennent pourquoi l'histoire les touche, alors elle n'a pas fonctionné. Et là, il visait les critiques amateurs. YouTubers, TikTokers, Letterboxd, c'est sur eux qui chiennent. Déjà, un, je pense pas que Christopher Nolan devrait frapper vers le bas. Je pense pas que ça y apporte grand-chose. Ensuite, Christopher Nolan a également une opinion qui compte énormément parce que c'est Christopher Nolan. Est-ce que comprendre les mécanismes narratifs et émotionnels fait de toi une critique? Non. En tout cas, je pense pas. Avoir une opinion fait de toi une critique. Reconnaître qu'on a mis de la musique triste pour te faire pleurer, déjà un, ça rend pas la scène forcément moins bonne. C'est juste que tu connais le mécanisme, quoi. Des fois, t'as besoin de mettre de la musique triste parce que c'est un pic émotionnel d'un film. Expliquer un mécanisme ou son origine, eh bien, ça enlève rien au mécanisme comme tel. Toute la fiction est basée sur des mécanismes. J'ai fait une chier de film de série B, une chier de nanar, une chier de navet sur ma chaîne. Et là où tu peux différencier les bons et les mauvais films, d'habitude, c'est justement dans l'utilisation de leur mécanisme. Oui, parce que si le mécanisme est tellement visible qu'il te sort du film, c'est légitime de le pointer du doigt. La question devrait jamais être « est-ce qu'il y a un mécanisme? » La question devrait toujours être « est-ce qu'il est exécuté avec finesse? » Ensuite, je comprends pas trop Christopher Nolan dans tout ça parce que mordre la main qui te nourrit, c'est jamais une bonne idée. Qu'en 2026, les critiques YouTube ou TikTok ont plus d'influence sur le public qu'une critique professionnelle. Les gens s'identifient plus à eux et ils s'identifient au goût d'une certaine critique et c'est un cercle qui commence où lui, il a des goûts qui ressemblent aux miens, donc je le suis, j'écoute ce qu'il dit, je le comprends, des fois je suis d'accord, des fois je le suis pas. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et je vais aller plus loin en vous disant que Christopher Nolan est un des réalisateurs qui profite sûrement le plus de ces plateformes-là. Le nombre de critiques, de rétrospectives, d'essais sur ses films, sur sa manière de filmer, sur comment il fait quoi et pourtant et ci et ça, des vidéos qui durent des heures pour nous expliquer le travail de Christopher Nolan, c'est lui qui en tire profit de ça. Et un autre truc qui est vachement réaliste en 2026, c'est qu'une critique négative n'a plus vraiment d'influence sur le résultat d'un film. Non. C'est pas le bad buzz ou une mauvaise vibe face à un film qui empêche les gens d'aller voir le film. Ce qui empêche les gens d'aller voir un film aujourd'hui, c'est l'indifférence, le silence. Si personne parle du film, personne va aller le voir. Vous voyez le lien que je fais avec le début, là, l'économie de l'attention, etc., que tu vois, Les gens des studios ont compris comment vendre l'Odyssée parce qu'ils ont créé du buzz, que ce soit bon ou mauvais, ils ont créé du buzz autour du film. Hein? Je vais vous donner un autre exemple tout de suite, OK? J'ai fait un tweet la semaine dernière en sortant du film. Le refus de Christopher Nolan de mettre du fantastique dans ses films sera toujours son plus gros défaut, sa recherche de réalisme absolu et son talon d'Achille. Oui, le jeu de mots était facile. Et là, il y a ceux qui ont pris mon tweet à la lettre. T'as pas vu le film? T'as pas vu le même film que moi? Et là, il me citait tout ce qu'il y avait de fantastique dans le film. Hein. Il me citait Cersei, les sirènes, Calypso, le Lotus, le Cyclope, les soldats géants. Il me les sortait tous, un par un. OK? Et ensuite, t'as ceux qui n'ont même pas pris le temps de lire mon tweet et qui ont crié au wokisme. Elliot Page en soldat, c'est n'importe quoi. Une noire Hélène de Troie, oublie ça, ça n'a pas de sens. Plein d'anachronismes, plein de les armures n'ont rien à voir avec les armures de l'époque. Eux, ils venaient passer un message sous mon tweet. Sauf que ce que je voulais dire avec mon tweet, c'était ni un ni l'autre. Non, ce que je jugeais sur le fond, c'était la méthode dont on nous montrait des éléments fantastiques dans l'Odyssée. Parce que quand Nolan filme un cyclope, eh bien, il te montre un cyclope. Quand Nolan filme une tempête, ben, il te montre une tempête. Il y en a des trucs fantastiques dans ce film-là, mais il n'y a rien qui t'émerveille. En tout cas, il n'y a rien qui m'a émerveillé. Comprenez ce que je veux dire? Nolan, il filme du fantastique, mais il te le montre comme s'il filmait une chaise. Après, je vous le dis tout de suite, là, X, pas forcément meilleur endroit pour avoir une conversation profonde. Je le sais. Et il y a des trucs qui marchent super bien dans le film. Et il y en a d'autres qui marchent absolument pas, selon moi. Je fais juste penser à la scène où le personnage de Tom Holland et celui de John Bertal chassent. Ben, on dirait un mauvais cosplay, quoi. Ça, ouch. Et je ne suis pas un spécialiste de l'Odyssée d'Homère, mais de mémoire, parce que ça demeure une lecture obligatoire, les dieux, il n'y avait pas un rôle hyper important dans cette histoire-là. Parce que dans la version de Nolan, les dieux, faut les interpréter. Pour tout ce qui est truc historique, moi, je ne suis vraiment pas la personne pour juger. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver où ils comparent vraiment l'Odyssée, la période, etc., avec le film de Nolan. Et ils font des analyses beaucoup plus profondes et intellectuelles que la mienne. Je vous les conseille, c'est facile à trouver. Et un point sur lequel je vais défendre Nolan, OK? Et c'est important. Adaptation. Il refait pas l'histoire d'Homère. Il a fait une adaptation de l'histoire d'Homère. L'Odyssée est une adaptation d'un poème, d'un livre. Donc, une adaptation laisse la place à l'interprétation. C'est important de le souligner, ça aussi. On n'a pas entendu parler beaucoup de ce terme-là, hein? Adaptation. Il faut dire que ça porte à la réflexion, et ensuite la réflexion, c'est pas vendeur. Je pense également que deux films auraient été plus efficaces qu'un seul film. L'histoire est tellement gigantesque que on aurait pu prendre le temps de la raconter. Et c'est aussi important pour moi de vous dire que Christopher Nolan a ses qualités et a ses défauts. Christopher Nolan a fait de très bons films et il en a fait d'autres que j'aime pas vraiment. Mais Christopher Nolan est un des derniers réalisateurs de sa génération à avoir une identité. Tu reconnais un film de Nolan. Et une identité, c'est important. Et ça, il faut mettre ça de l'avant aussi. Des réalisateurs avec une identité. Et c'est également un des derniers réalisateurs encore actifs capable de créer des projets grandioses avec beaucoup d'argent et qui vont ramasser beaucoup d'argent. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Un film qui fait 1 milliard, à un moment donné, ça ne doit pas être si mauvais que ça, quoi. Sauf que, selon moi, quand je suis sorti de la salle, ben, j'ai compris un peu pourquoi personne ne parlait du film en promo ou après la bande-annonce. Parce que sans être mauvais,
pour moi, ça n'a pas été un grand film non plus, quoi. Et tant qu'on gardait la conversation hors de parler du film, là, on parlait de diversité, on parlait de technique, mais ça n'empêchait personne d'aller voir ce film-là. Parce que peut-être qu'il y allait justement pour la diversité ou justement pour l'aspect technique. Wow, 70 mm. Même si tu le regardes à ton cinéma de quartier, tu n'auras jamais cette technologie-là. C'est le genre de film qui va avoir son public, OK? Ça, c'est clair. Il y a des fans de ce film-là qui vont le défendre bec et ongle pour le reste de leur vie et c'est OK d'aimer ce film-là. Moi, personnellement, je le place juste au-dessus de Tenet. C'est meilleur que Tenet, pour moi. Il faut dire que Tenet, il a fallu que je le regarde 3 fois pour le comprendre à peu près. Là. Puis encore là, je suis pas sûr. Mais mon problème fondamental avec le film, c'est que j'ai le sentiment de m'être fait manipuler ou qu'on a essayé de me manipuler à travers les médias sociaux, à travers le discours qu'on a tenu durant la promo du film-là. Et ça, ben, c'est un mécanisme. Si je reconnais un mécanisme, est-ce que j'ai le droit d'en parler?